émancipateur. Cette contrainte avait pris en la circonstance la forme de la consigne donnée par Jacotot. Et il en résultait une conséquence capitale, non plus pour les élèves, mais pour le maître. Les élèves avaient appris sans maître explicateur, mais non pas pour autant sans maître. Chapitre 1er. Une aventure intellectuelle. En l'an 1818, Joseph Jacotot, lecteur de littérature française à l'Université de Louvain, connut une aventure intellectuelle. Une carrière longue et mouvementée aurait pourtant dû le mettre à l'abri des surprises. Il avait fêté ses 19 ans en 1789. Il enseignait alors la rhétorique à Dijon et se préparait au métier d'avocat. En 1792, il avait servi comme artilleur dans les armées de la République. Puis la Convention l'avait vu successivement instructeur au bureau des poudres, secrétaire du ministre de la guerre et substitut du directeur de l'école polytechnique. Revenu à Dijon, il y avait enseigné l'analyse, l'idéologie et les langues anciennes, les mathématiques pures et transcendantes et le droit. En mars 1815, l'estime de ses compatriotes en avait fait malgré lui un député. Le retour des Bourbons l'avait contraint à l'exil et il avait obtenu de la libéralité du roi des Pays-Bas ce poste de professeur à demi-solde. Joseph Jacotot connaissait les lois de l'hospitalité et comptait passer à Louvain des jours calmes. Hasard en décida autrement. Les leçons du modeste lecteur furent en effet vite goûtées des étudiants. Parmi ceux qui voulurent en profiter, un bon nombre ignorait le français. Joseph Jacotot, de son côté, ignorait totalement le hollandais. Il n'existait donc point de langue dans laquelle il pût les instruire de ce qu'ils lui demandaient. Il voulut pourtant répondre à leurs vœux. Pour cela, il fallait établir entre eux et lui le lien minimal d'une chose commune. Or, il se publiait en ce temps-là à Bruxelles une édition bilingue de Télémaque. La chose commune était trouvée et Télémaque entra ainsi dans la vie de Joseph Jacotot. Il fit remettre le livre aux étudiants par un interprète et leur demanda d'apprendre le texte français en s'aidant de la traduction. Quand ils eurent atteint la moitié du premier livre, il leur fit dire de répéter sans cesse ce qu'ils avaient appris et de se contenter de lire le reste pour être à même de le raconter. C'était là une solution de fortune, mais aussi, à petite échelle, une expérience philosophique dans le goût de celle qu'on affectionnait au siècle des Lumières. Et Joseph Jacotot, en 1818, restait un homme du siècle passé. L'expérience, pourtant, dépassa son attente. Il demanda aux étudiants ainsi préparés d'écrire en français ce qu'ils pensaient de tout ce qu'ils avaient lu. Ils s'attendaient à d'affreux barbarismes, à une impuissance absolue peut-être. Comment, en effet, tous ces jeunes gens, privés d'explications, auraient-ils pu comprendre et résoudre les difficultés d'une langue nouvelle pour eux? N'importe, il fallait voir où les avait conduits cette route ouverte au hasard, quels étaient les résultats de cet empirisme désespéré. Combien ne fut-il pas surpris de découvrir que ses élèves, livrés à eux-mêmes, s'étaient tirés de ce pas difficile, aussi bien que l'auraient fait beaucoup de Français. Ne fallait-il donc plus que vouloir pour pouvoir ? Tous les hommes étaient-ils donc virtuellement capables de comprendre ce que d'autres avaient fait et compris ? Telle fut la révolution que cette expérience de hasard provoqua dans son esprit. Jusque-là, il avait cru ce que croient tous les professeurs consciencieux, que la grande affaire du maître est de transmettre ses connaissances à ses élèves pour les élever par degrés vers sa propre science. Il savait, comme eux, qu'il ne s'agit point de gaver les élèves de connaissances et de les faire répéter comme des perroquets, mais aussi qu'il faut leur éviter ces chemins de hasard où se perdent des esprits encore incapables de distinguer l'essentiel de l'accessoire et le principe de la conséquence. Bref, l'acte essentiel du maître était d'expliquer, de dégager les éléments simples des connaissances et d'accorder leur simplicité de principe avec la simplicité de fait qui caractérise les esprits jeunes et ignorants. Enseigner, c'était d'un même mouvement transmettre des connaissances et former des esprits en les menant, selon une progression ordonnée, du plus simple au plus complexe. Ainsi l'élève s'élevait-il dans l'appropriation raisonnée du savoir et la formation du jugement et du goût, aussi haut que sa destination sociale le requérait, et était-il préparé à en faire l'usage convenant à cette destination. Enseigner, plaider ou gouverner pour les élites lettrées, concevoir, dessiner ou fabriquer instruments et machines pour les avant-gardes nouvelles que l'on cherchait maintenant à tirer de l'élite du peuple. Faire dans la carrière des sciences des découvertes nouvelles pour les esprits doués de ce génie particulier. Sans doute, les démarches de ces hommes de science divergeaient-elles sensiblement de l'ordre raisonné des pédagogues. Mais il n'y avait aucun argument à en tirer contre cet ordre. Au contraire, il faut d'abord avoir acquis une solide et méthodique formation pour donner l'essor aux singularités du génie. Post hoc, ergo propter hoc. Ainsi raisonnent tous les professeurs consciencieux. Ainsi avait raisonné et agi Joseph Jacotot, en 30 ans de métier. Or, voilà que le grain de sable venait par hasard de s'introduire dans la machine. Il n'avait donné à ses élèves aucune explication sur les premiers éléments de la langue. Il ne leur avait pas expliqué l'orthographe et les conjugaisons. Ils avaient cherché seuls les mots français correspondant aux mots qu'ils connaissaient et les raisons de leur désinence. Ils avaient appris seuls à les combiner pour faire à leur tour des phrases françaises. Des phrases dont l'orthographe et la grammaire devenaient de plus en plus exactes à mesure qu'ils avançaient dans le livre, mais surtout des phrases d'écrivains et non point d'écoliers. Les explications du maître étaient-elles donc superflues? Ou si elles ne l'étaient pas, à qui et à quoi étaient-elles donc utiles? Explicateur. Une illumination soudaine éclaira donc brutalement dans l'esprit de Joseph Jacotot cette évidence aveugle de tout système d'enseignement, la nécessité des explications. Quoi de mieux assuré pourtant que cette évidence? Nul ne connaît vraiment que ce qu'il a compris. Et pour qu'il comprenne, il faut qu'on lui ait donné une explication. Que la parole du maître ait brisé le mutisme de la matière enseignée. Cette logique pourtant ne laisse pas de comporter quelques obscurités. Voici par exemple un livre entre les mains de l'élève. Ce livre est composé d'un ensemble de raisonnements destinés à faire comprendre une matière à l'élève. Mais voici maintenant le maître qui prend la parole pour expliquer le livre. Il fait un ensemble de raisonnements pour expliquer l'ensemble de raisonnements que constitue le livre. Mais pourquoi celui-ci a-t-il besoin d'un tel secours? Au lieu de payer un explicateur, Le père de famille ne pourrait-il pas simplement donner le livre à son fils et l'enfant comprendre directement les raisonnements du livre? Et s'il ne les comprend pas, pourquoi comprendrait-il davantage les raisonnements qui lui expliqueront ce qu'il n'a pas compris? Ceux-ci sont-ils d'une autre nature? Et ne faudra-t-il pas, dans ce cas, expliquer encore la façon de les comprendre? La logique de l'explication comporte ainsi le principe d'une régression à l'infini. Le redoublement des raisons n'a pas de raison de s'arrêter jamais. Ce qui arrête la régression et donne au système son assise, c'est simplement que l'explicateur est seul juge du point où l'explication est elle-même expliquée. Il est seul juge de cette question par elle-même vertigineuse. L'élève a-t-il compris les raisonnements qui lui enseignent à comprendre les raisonnements? C'est là que le maître tient le père de famille. Comment celui-ci sera-t-il assuré que l'enfant a compris les raisonnements du livre? Ce qui manque au père de famille, ce qui manquera toujours au trio qu'il forme avec l'enfant et le livre, c'est cet art singulier de l'explicateur, l'art de la distance. Le secret du maître est de savoir reconnaître la distance entre la matière enseignée et le sujet à instruire, la distance aussi entre apprendre et comprendre. L'explicateur est celui qui pose et abolit la distance, qui la déploie et la résorbe au sein de sa parole. Ce statut privilégié de la parole ne supprime la régression à l'infini que pour instituer une hiérarchie paradoxale. Dans l'ordre explicateur, en effet, il faut généralement une explication orale pour expliquer l'explication écrite. Cela suppose que les raisonnements sont plus clairs, s'impriment mieux dans l'esprit de l'élève quand ils sont véhiculés par la parole du maître qui se dissipe dans l'instant, que dans le livre où ils sont pour jamais inscrits en caractère ineffaçable. Comment entendre ce paradoxal privilège de la parole sur l'écrit, de l'ouïe sur la vue? Quel rapport y a-t-il donc entre le pouvoir de la parole et celui du maître? Ce paradoxe en rencontre aussitôt un autre. Les paroles que l'enfant apprend le mieux, celles dont il pénètre le mieux le sens, qu'il s'approprie le mieux pour son propre usage, ce sont celles qu'il apprend sans maître explicateur, avant tout maître explicateur. Dans l'inégal rendement des apprentissages intellectuels divers, ce que tous les enfants d'hommes apprennent le mieux, c'est ce que nul maître ne peut leur expliquer, la langue maternelle. On leur parle et l'on parle autour d'eux. Ils entendent et retiennent, imitent et répètent, se trompent et se corrigent, réussissent par chance et recommencent par méthode, et à un âge trop tendre pour que les explicateurs puissent entreprendre leur instruction, sont à peu près tous, quel que soit leur sexe, leur condition sociale et la couleur de leur peau, capables de comprendre et de parler la langue de leurs parents. Or, voici que cet enfant qui a appris à parler par sa propre intelligence et par des maîtres qui ne lui expliquaient pas la langue, commence son instruction proprement dite. Tout se passe maintenant comme s'il ne pouvait plus apprendre à l'aide de la même intelligence qui lui a servi jusqu'alors. Comme si le rapport autonome de l'apprentissage à la vérification lui était désormais étranger. Entre l'un et l'autre, une opacité s'est maintenant établie. Il s'agit de comprendre, et ce seul mot jette un voile sur toute chose. Comprendre est ce que l'enfant ne peut faire sans les explications d'un maître, plus tard d'autant de maîtres qu'il y aura de matière à comprendre, donnée dans un certain ordre progressif. S'y ajoute la circonstance étrange que ces explications, depuis qu'a commencé l'ère du progrès, ne cessent de se perfectionner pour mieux expliquer, mieux faire comprendre, mieux apprendre à apprendre, sans qu'on puisse jamais mesurer un perfectionnement correspondant dans la dite compréhension. Bien plus tôt commence à s'élever la rumeur désolée, qui ne cessera de s'amplifier celle d'une baisse continue de l'efficacité du système explicatif, laquelle nécessite bien sûr un nouveau perfectionnement pour rendre les explications plus faciles à comprendre pour ceux qui ne les comprennent pas. La révélation qui saisit Joseph Jacotot se ramène à ceci. Il faut renverser la logique du système explicateur. L'explication n'est pas nécessaire pour remédier à une incapacité à comprendre. C'est au contraire cette incapacité qui est la fiction structurante de la conception explicatrice du monde. C'est l'explicateur qui a besoin de l'incapable et non l'inverse. C'est lui qui constitue l'incapable comme tel. Expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est d'abord lui démontrer qu'il ne peut pas le comprendre par lui-même. Avant d'être l'acte du pédagogue, l'explication est le mythe de la pédagogie, la parabole d'un monde divisé en esprit savant et esprit ignorant, esprit mûr et immature, capable et incapable, intelligent et bête. Le tour propre à l'explicateur consiste en ce double geste inaugural. D'une part, il décrète le commencement absolu. C'est maintenant seulement que va commencer l'acte d'apprendre. D'autre part, sur toutes les choses à apprendre, il jette ce voile de l'ignorance qu'il se charge lui-même de lever. Jusqu'à lui, le petit homme a tâtonné à l'aveuglette, à la devinette. Il va apprendre maintenant. Il entendait des mots et les répétait. Il s'agit de lire maintenant, et il n'entendra pas les mots s'il n'entend les syllabes s'il n'entend les lettres, que ni le livre ni ses parents ne sauraient lui faire entendre, mais seulement la parole du maître. Le mythe pédagogique, disions-nous, divise le monde en deux. Il faut dire plus précisément qu'il divise l'intelligence en deux. Il y a, dit-il, une intelligence inférieure et une intelligence supérieure. La première enregistre au hasard des perceptions, retient, interprète et répète empiriquement dans le cercle étroit des habitudes et des besoins. C'est l'intelligence du petit enfant et de l'homme du peuple. La seconde connaît les choses par les raisons. Elle procède par méthode, du simple au complexe, de la partie au tout. C'est elle qui permet au maître de transmettre ses connaissances en les adaptant aux capacités intellectuelles de l'élève et de vérifier que l'élève a bien compris ce qu'il a appris. Tel est le principe de l'explication. Tel sera désormais pour Jacotot le principe de l'abrutissement. Entendons-le bien. Et pour cela, chassons les images connues. L'abrutisseur n'est pas le vieux maître obtus qui bourre le crâne de ses élèves de connaissances indigestes, ni l'être maléfique pratiquant la double vérité pour assurer son pouvoir et l'ordre social. Au contraire, il est d'autant plus efficace qu'il est savant, éclairé et de bonne foi. Plus il est savant, plus évidente lui apparaît la distance de son savoir à l'ignorance des ignorants. Plus il est éclairé, plus lui semble évidente la différence qu'il y a entre tâtonner à l'aveuglette et chercher avec méthode. Plus il s'attachera à substituer l'esprit à la lettre, la clarté des explications à l'autorité du livre. Avant tout, dira-t-il, il faut que l'élève comprenne, et pour cela qu'on lui explique toujours mieux. Tel est le souci du pédagogue éclairé. Le petit comprend-il ? Il ne comprend pas. Je trouverai des manières nouvelles de lui expliquer, plus rigoureuses dans leurs principes, plus attrayantes dans leur forme, et je vérifierai qu'il a compris. Noble souci. Malheureusement, c'est justement ce petit mot, ce mot d'ordre déséclairé, comprendre, qui fait tout le mal. C'est lui qui arrête le mouvement de la raison, détruit sa confiance en elle-même, la met hors de sa voie propre en brisant en deux le monde de l'intelligence. En instaurant la coupure de l'animal tâtonnant au petit monsieur instruit, du sens commun à la science. Dès lors qu'est prononcé ce mot d'ordre de la dualité, tout perfectionnement dans la manière de faire comprendre cette grande préoccupation des méthodistes et des progressistes est un progrès dans l'abrutissement. L'enfant qui annonce, sous la menace des coups, obéit à la férule, et voilà tout. Il appliquera son intelligence à autre chose. Mais le petit, expliqué, lui, investira son intelligence dans ce travail de deuil. Comprendre, c'est-à-dire comprendre qu'il ne comprend pas si on ne lui explique pas. Ce n'est plus à la férule qu'il se soumet, c'est à la hiérarchie du monde des intelligences. Pour le reste, il est tranquille comme l'autre. Si la solution du problème est trop difficile à chercher, il aura bien l'intelligence d'écarquiller les yeux. Le maître est vigilant et patient. Il verra que le petit ne suit plus. Il le remettra dans le chemin en lui réexpliquant. Ainsi, le petit acquiert-il une intelligence nouvelle, celle des explications du maître. Plus tard, il pourra être explicateur à son tour. Il possède l'équipement, mais il le perfectionnera. Il sera homme de progrès. Expliquer. Ainsi aurait-il dû aller encore pour le professeur Jacotto si le hasard ne l'avait mis en présence d'un fait. Et Joseph Jacotto pensait que tout raisonnement doit partir des faits et céder devant eux. N'entendons pas par là qu'il fût matérialiste. Au contraire, comme Descartes qui prouvait le mouvement en marchant, mais aussi comme son contemporain, le très royaliste et très religieux Maine de Biran, il tenait les faits de l'esprit agissant et prenant conscience de son activité pour plus certain que toute chose matérielle. Et c'était bien de cela qu'il s'agissait. Le fait était que ses étudiants s'étaient appris à parler et à écrire en français sans le secours de ses explications. Il ne leur avait rien transmis de sa science, rien expliqué des radicaux et des flexions de la langue française. Il n'avait pas même procédé à la façon de ses pédagogues réformateurs qui, comme le précepteur d'Émile, égarent leurs élèves pour mieux les guider et baliser astucieusement un parcours d'obstacles qu'il faut apprendre à franchir par soi-même. Il les avait laissés seuls avec le texte de Fénelon. Une traduction, pas même interlinéaire, à la manière des écoles, et leur volonté d'apprendre le français. Il leur avait seulement donné l'ordre de traverser une forêt dont il ignorait les issues. La nécessité l'avait contraint à laisser entièrement hors jeu son intelligence, cette intelligence médiatrice du maître qui relie l'intelligence imprimée dans les mots écrits à celle de l'apprenti. Et du même coup, il avait supprimé cette distance imaginaire qui est le principe de l'abrutissement pédagogique. Tout s'était joué par force entre l'intelligence de Fénelon, qui avait voulu faire un certain usage de la langue française, celle du traducteur, qui avait voulu en donner un équivalent hollandais, et leur intelligence d'apprenti, qui voulait apprendre la langue française. Et il était apparu qu'aucune autre intelligence n'était nécessaire. Sans y penser, il leur avait fait découvrir ce qu'ils découvraient avec eux. Toutes les phrases, et par conséquent toutes les intelligences qui les produisent, sont de même nature. Comprendre n'est jamais que traduire. C'est-à-dire donner l'équivalent d'un texte, mais non point sa raison. Il n'y a rien derrière la page écrite, pas de double fond qui nécessite le travail d'une intelligence autre, celle de l'explicateur, pas de langue du maître, de langue de la langue dont les mots et les phrases aient le pouvoir de dire la raison des mots et des phrases d'un texte. Les étudiants flamands en avaient administré la preuve. Ils n'avaient à leur disposition pour parler de Télémaque que les mots de Télémaque. Il suffit donc des phrases de Fénelon pour comprendre les phrases de Fénelon et pour dire ce qu'on en a compris. Apprendre et comprendre sont deux manières d'exprimer le même acte de traduction. Il n'y a rien en deçà des textes sinon la volonté de s'exprimer, c'est-à-dire de traduire. S'ils avaient compris la langue en apprenant Fénelon, ce n'était pas simplement par la gymnastique qui compare une page de gauche à une page de droite. Ce n'est pas l'aptitude à changer de colonne qui compte, mais la capacité de dire ce qu'on pense dans les mots des autres. S'ils avaient appris cela de Fénelon, c'était parce que l'acte de Fénelon, écrivain, était lui-même un acte de traducteur. Pour traduire une leçon de politique en récit légendaire, Fénelon avait mis en français de son siècle le grec d'Homère, le latin de Virgile et la langue savante ou naïve de 100 autres textes, du conte d'enfant à l'histoire érudite. Il avait appliqué à cette double traduction la même intelligence qu'ils emploient à leur tour pour raconter avec les phrases de son livre ce qu'ils pensaient de son livre. Mais aussi, l'intelligence qui leur avait fait apprendre le français dans Télémaque était la même par laquelle ils avaient appris la langue maternelle, en observant et en retenant, en répétant et en vérifiant, en rapportant ce qu'ils cherchaient à connaître à ce qu'ils connaissaient déjà, en faisant et en réfléchissant à ce qu'ils avaient fait. Ils étaient allés comme on ne doit pas aller, comme vont les enfants, à l'aveuglette, à la devinette. Et la question se posait alors, est-ce qu'il ne fallait pas renverser l'ordre admis des valeurs intellectuelles? Est-ce que cette méthode honnie de la devinette n'était pas le vrai mouvement de l'intelligence humaine qui prend possession de son propre pouvoir? Est-ce que sa proscription ne signait pas d'abord la volonté de couper en deux le monde de l'intelligence? Les méthodistes opposent la mauvaise méthode de hasard à la démarche par raison. Mais ils se donnent par avance ce qu'ils veulent prouver. Ils supposent un petit animal qui explore en se cognant aux choses un monde qu'il n'est pas encore capable de voir et qu'ils lui apprendront justement à discerner. Mais le petit homme est d'abord un être de parole. L'enfant qui répète les mots entendus et l'étudiant flamand perdu dans son Télémaque ne vont pas au hasard. Tout leur effort, toute leur exploration est tendue vers ceci. Une parole d'homme leur a été adressée, qu'ils veulent reconnaître, et à laquelle ils veulent répondre, non en élève ou en savant, mais en homme, comme on répond à quelqu'un qui vous parle, et non à quelqu'un qui vous examine, sous le signe de l'égalité. Le fait était là. Ils avaient appris seuls et sans maître explicateur. Or, ce qui a eu lieu une fois est toujours possible. Cette découverte, au demeurant, pouvait renverser les principes du professeur Jacotot. Mais l'homme Jacotot était plus à même de reconnaître la variété de ce qu'on peut attendre d'un homme. Son père avait été boucher avant de tenir les comptes de son grand-père, le charpentier qui avait envoyé son petit-fils au collège. Lui-même était professeur de rhétorique quand avait retenti l'appel aux armes de 1792. Le vote de ses compagnons l'avait fait capitaine d'artillerie et il s'était montré un remarquable artilleur. En 1793, au bureau des poudres, ce latiniste s'était fait instructeur de chimie pour la formation accélérée de ses ouvriers qu'on envoyait appliquer sur tous les points du territoire les découvertes de Fourcroy. Chez le même Fourcroy, il avait connu Vauquelin, ce fils de paysan qui s'était fait une formation de chimiste en cachette de son patron. À l'école polytechnique, il avait vu arriver ces jeunes gens que des commissions improvisées avaient sélectionnés sur le double critère de leur vivacité d'esprit et de leur patriotisme. Et il les avait vus devenir de fort bons mathématiciens, moins par les mathématiques que Monge où Lagrange leur expliquait que par celles qu'il faisait devant eux. Lui-même avait apparemment profité de ses fonctions administratives pour se donner une compétence de mathématicien qu'il avait plus tard exercée à l'université de Dijon. Tout comme il avait adjoint l'hébreu aux langues anciennes qu'il enseignait et composait un essai sur la grammaire hébraïque. Il pensait, Dieu sait pourquoi, que cette langue avait de l'avenir. Enfin, il s'était fait, à son corps défendant, mais avec la plus grande fermeté, une compétence de représentant du peuple. Bref, il savait ce que la volonté des individus et le péril de la patrie pouvaient faire naître de capacités inédites en des circonstances où l'urgence contraignait à brûler les étapes de la progression explicatrice. Il pensa que cet état d'exception, commandé par le besoin de la nation, ne différait pas en son principe de cette urgence qui commande l'exploration du monde par l'enfant ou de cet autre qui contraint la voie singulière des savants et des inventeurs. À travers l'expérience de l'enfant, du savant et du révolutionnaire, la méthode de Hasard, pratiquée avec succès par les étudiants flamands, révélait son second secret. Cette méthode de l'égalité était d'abord une méthode de la volonté. On pouvait apprendre seul et sans maître explicateur quand on le voulait, par la tension de son propre désir ou la contrainte de la situation. L'expérience lui sembla suffisante pour l'éclairer. On peut enseigner ce qu'on ignore, si l'on émancipe l'élève, c'est-à-dire si on le contraint à user de sa propre intelligence. Maître est celui qui enferme une intelligence dans le cercle arbitraire d'où elle ne sortira qu'à se rendre à elle-même nécessaire. Pour émanciper un ignorant, il faut et il suffit d'être soi-même émancipé, c'est-à-dire conscient du véritable pouvoir de l'esprit humain. L'ignorant apprendra seul ce que le maître ignore si le maître croit qu'il le peut et l'oblige à actualiser sa capacité. Cercle de la puissance homologue à ce cercle de l'impuissance qui lie l'élève à l'explicateur de la vieille méthode. Nous l'appellerons désormais simplement la vieille. Mais le rapport des forces est bien particulier. Le cercle de l'impuissance est toujours déjà là. Il est la marche même du monde social qui se dissimule dans l'évidente différence de l'ignorance et de la science. Le cercle de la puissance, lui, ne peut prendre effet que de sa publicité. Mais il ne peut apparaître que comme une tautologie ou une absurdité. Comment le maître savant entendra-t-il jamais qu'il peut enseigner ce qu'il ignore aussi bien que ce qu'il sait ? Il ne recevra cette augmentation de puissance intellectuelle que comme une dévaluation de sa science. Et l'ignorant, de son côté, ne se croit pas capable d'apprendre par lui-même, encore moins d'instruire un autre ignorant. Les exclus du monde de l'intelligence souscrivent eux-mêmes au verdict de leur exclusion. Bref, le cercle de l'émancipation doit être commencé. Là est le paradoxe, car à y réfléchir un peu, la méthode qu'il propose est la plus vieille de toutes et elle ne cesse d'être vérifiée tous les jours, dans toutes les circonstances où un individu a besoin de s'approprier une connaissance qu'il n'a pas le moyen de se faire expliquer. Il n'y a pas d'homme sur la terre qui n'ait appris quelque chose par lui-même et sans maître explicateur. Appelons cette manière d'apprendre enseignement universel et nous pourrons l'affirmer. l'enseignement universel existe réellement depuis le commencement du monde, à côté de toutes les méthodes explicatrices. Cet enseignement, par soi-même, a réellement formé tous les grands hommes. Mais voilà l'étrange. Tout homme a fait cette expérience 1000 fois dans sa vie, et cependant jamais il n'était venu dans l'idée de personne de dire à un autre « J'ai appris beaucoup de choses sans explication. Je crois que vous le pouvez comme moi. » Ni moi, ni qui que ce soit au monde ne s'était avisé de l'employer pour instruire les autres. À l'intelligence qui somnole en chacun, il suffirait de dire « Age quad agis ». Continue à faire ce que tu fais. Apprends le fait, imite-le, connais-toi toi-même, c'est la marche de la nature. Répète méthodiquement la méthode de hasard qui t'a donné la mesure de ton pouvoir. La même intelligence est à l'œuvre dans tous les actes de l'esprit humain. Mais c'est là le saut le plus difficile. Tout le monde pratique cette méthode au besoin, mais nul ne veut la reconnaître. Nul ne veut se mesurer à la révolution intellectuelle qu'elle signifie. Le cercle social, l'ordre des choses, lui interdit d'être reconnu pour ce qu'elle est. La vraie méthode par laquelle chacun apprend et par laquelle chacun peut prendre la mesure de sa capacité. Il faut oser la reconnaître et poursuivre la vérification ouverte de son pouvoir. Sans quoi la méthode de l'impuissance, la vieille, durera autant que l'ordre des choses. Qui voudrait commencer ? Il y avait bien en ce temps-là toutes sortes d'hommes de bonne volonté qui se préoccupaient de l'instruction du peuple. Des hommes d'ordre voulaient élever le peuple au-dessus de ses appétits brutaux. Des hommes de révolution voulaient l'amener à la conscience de ses droits. Des hommes de progrès souhaitaient, par l'instruction, atténuer le fossé entre les classes. Des hommes d'industrie rêvaient de donner, par elle, aux meilleures intelligences populaires les moyens d'une promotion sociale. Toutes ces bonnes intentions rencontraient un obstacle. Les hommes du peuple ont peu de temps et encore moins d'argent à consacrer à cette acquisition. Aussi cherchait-on le moyen économique de diffuser le minimum d'instruction jugée, selon les cas, nécessaire et suffisant pour l'amélioration des populations laborieuses. Parmi les progressifs et les industriels, une méthode était alors en honneur, l'enseignement mutuel. Il permettait de réunir dans un vaste local un grand nombre d'élèves divisés en escouades, dirigés par les plus avancés d'entre eux, promus au rang de moniteurs. Ainsi, le commandement et la leçon du maître rayonnaient-ils par le relais de ses moniteurs sur toute la population à instruire. Le coup d'œil plaisait aux amis du progrès. C'est ainsi que la science se répand des sommets jusqu'aux plus modestes intelligences. Le bonheur et la liberté descendant à sa suite. Cette sorte de progrès pour Jacotto sentait la bride. Manège perfectionné, disait-il. Il rêvait autre chose à l'enseigne de l'instruction mutuelle. Que chaque ignorant puisse se faire pour un autre ignorant le maître qui lui révélerait son pouvoir intellectuel. Plus exactement, son problème n'était pas l'instruction du peuple. On instruit les recrues, que l'on enrôle sous sa bannière, les subalternes qui doivent pouvoir comprendre les ordres, le peuple que l'on veut gouverner à la manière progressive, sans temps, sans droit divin et selon la seule hiérarchie des capacités. Son problème à lui était l'émancipation. Que tout homme du peuple puisse concevoir sa dignité d'homme, prendre la mesure de sa capacité intellectuelle et décider de son usage. Les amis de l'instruction assuraient que celle-ci était la condition d'une vraie liberté. Après quoi, ils reconnaissaient qu'ils devaient l'instruction au peuple, quitte à se disputer sur celle qu'ils lui donneraient. Jacotto ne voyait pas quelle liberté pouvait résulter pour le peuple des devoirs de ses instructeurs. Il sentait au contraire dans l'affaire une nouvelle forme d'abrutissement. Qui enseigne sans émanciper, abrutit. Et qui émancipe n'a pas à se préoccuper de ce que l'émancipé doit apprendre. il apprendra ce qu'il voudra. Rien peut-être. Il saura qu'il peut apprendre parce que la même intelligence est à l'œuvre dans toutes les productions de l'art humain. Qu'un homme peut toujours comprendre la parole d'un autre homme. L'imprimeur de Jacotot avait un fils débile. On désespérait de ne rien faire. Jacotot lui enseigna l'hébreu. Après quoi l'enfant devint un excellent lithographe. L'hébreu, cela va de soi, ne lui servit jamais à rien. Sinon à savoir ce qu'ignoreraient toujours les intelligences mieux douées et plus instruites. Ce n'était pas de l'hébreu. Les choses étaient donc claires. Ce n'était pas une méthode pour instruire le peuple. C'était un bienfait à annoncer aux pauvres. Il pouvait tout ce que peut un homme. Il suffisait de l'annoncer. Jacotot décida de s'y dévouer. Il proclama que l'on peut enseigner ce qu'on ignore et qu'un père de famille, pauvre et ignorant, peut, s'il est émancipé, faire l'éducation de ses enfants sans le secours d'aucun maître explicateur. Et il indiqua le moyen de cet enseignement universel. Apprendre quelque chose et y rapporter tout le reste d'après ce principe. Tous les hommes ont une égale intelligence. On s'émeut à Louvain, à Bruxelles et à La Haye. On prit la chaise de poste de Paris et de Lyon. On vint d'Angleterre et de Prusse entendre la nouvelle. On alla la porter à Saint-Pétersbourg et à la Nouvelle-Orléans. Le bruit en courut jusqu'à Rio de Janeiro. Pendant quelques années, la polémique se déchaîna et la République du savoir trembla sur ses bases. Tout cela parce qu'un homme d'esprit, un savant renommé et un père de famille vertueux était devenu fou, faute d'avoir su le hollandais.